le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et bienvenue à ce magazine des Nations Unies. Au sommaire, un dialogue politique en RDC, Saïd Djinnit déblaie le terrain pour permettre à Ban Ki-moon éventuellement de désigner un facilitateur international. Dans cette édition, vous suivrez les propos de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. Les femmes sont les meilleures gestionnaires en RDC. Il faut donc favoriser leur accès aux instances décisionnelles dans la lutte contre la corruption. Thèse d'une ancienne ministre du genre Femmes et Familles, aujourd'hui consultante à l'ONU Femmes, Faïda Mwangi-Loi, c'est d'elle qu'il s'agit, plaide aussi pour une maternité gratuite en RDC. Enfin, première tournée de Mamane Sidikou dans l'Est du pays, à l'étape de Goma au Nord Kivu, le nouveau chef de la MONUSCO plaide pour des actions conjointes avec les FARDC face aux forces négatives.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et bon dimanche chez vous. Je l'ai dit dans le sommaire, Saïd Djinnit est revenu mercredi dernier en RDC pour la suite de ses contacts avec les acteurs politiques congolais en vue du dialogue. Dans une interview accordée à Martin Sebujangwe, l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs parle du contexte dans lequel il a été envoyé à Kinshasa par Ban Ki-moon.
Le secrétaire général m'a demandé de venir à Kinshasa et rencontrer le gouvernement et toutes les parties prenantes au sujet du dialogue national qui a été annoncé par le président de la République suite à une demande faite par le président de la République, Kabila, au secrétaire général en vue de mettre à disposition un facilitateur. Le secrétaire général a répondu au président lui demandant qu'il l'envoyait, qu'il dépêchait à Kinshasa son envoyé spécial en vue de discuter avec toutes les parties prenantes des contours du dialogue annoncé afin de lui permettre de prendre une décision finale et répondre au président de la République.
L'envoyé spécial de l'ONU a effectivement rencontré une nouvelle fois à Kinshasa jeudi dernier le président Joseph Kabila après avoir, une semaine auparavant, consulté les acteurs politiques et sociaux sur l'organisation du dialogue. Saïd Djinnit fait le point ses consultations, toujours au micro de Martin Sebujangwe.
Évidemment, j'ai fait le tour de Kinshasa en rencontrant les responsables du gouvernement. J'ai eu le privilège d'être reçu par le président de la République en arrivant la semaine passée. J'ai rencontré la plupart des parties prenantes, qu'il s'agisse du gouvernement, du parti au pouvoir, de la majorité présidentielle, de l'opposition, société civile, confession religieuse, partenaires de la RDC, pour essayer de recueillir le maximum d'informations sur le point de vue des uns et des autres sur des questions liées au dialogue, notamment l'agenda, le timing, le rôle attendu du facilitateur, l'objet du dialogue, voilà, toutes ces questions ont fait l'objet de consultations. Je dois aller à New York évidemment pour partager avec les autorités à New York les faits que j'ai pu et les informations que j'ai pu recueillir. J'ai pensé qu'il était mon devoir de revenir voir le président de la République dans le cadre de la confiance et de la transparence qui est requise en la matière, partager avec lui certaines de mes impressions à la suite de ces consultations.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le comité programme des Nations Unies a réuni mardi dernier quelques représentants du système des Nations Unies dans un atelier interne d'information sur l'appropriation en RDC des objectifs de développement durable ODD. Objectifs visés, partage et sensibilisation sur l'agenda des ODD avant la rencontre avec les membres du gouvernement. Taïb Diallo, conseiller principal en politique économique du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, parle de cet atelier. Il est interrogé par Nadine Foula.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Hier on parlait des OMD, aujourd'hui on parle des ODD. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces ODD?
Les ODD succèdent, pour ainsi dire, aux OMD qui sont arrivés à terme en cette année 2015. Et le bilan qui a été tiré était qu'il fallait que la communauté internationale se mobilise autour des objectifs essentiels, tire les leçons de ce qui a été appris et se détermine à poursuivre les axes principaux contenus dans les OMD sous l'agenda international pour le développement post-2015. D'où donc les ODD qui embrassent beaucoup plus que les OMD et qui restent d'une ambition notable qui puisse permettre que si tout le monde, la communauté internationale, les pays, les partenaires techniques et financiers, la société civile sont mobilisés, il serait possible de faire à l'humanité des progrès énormes pour la promotion du bien-être, de la sécurité, de la paix dans le monde.
Les OMD, il y en avait 8 et les ODD, il y en a combien ?
17 ODD qui reprennent une bonne partie des OMD et qui élargissent la perspective d'action à d'autres domaines tels que la gouvernance, tels que le changement climatique, tels que le développement institutionnel, le renforcement du partenariat. Et la particularité aussi des ODD, c'est qu'ils concernent à la fois aussi bien les nations dites sous-développées que les nations dites développées. Et donc, ils incitent à un partenariat beaucoup plus étroit, à une prise en compte d'éléments transversaux comme les changements climatiques, comme la promotion de la paix mondiale, et qui n'étaient pas pris en compte par les OMD.
Pour atteindre ces ODD, il faut nécessairement un besoin de financement. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'estimation globale et des éléments à inclure ?
Des conférences internationales se sont tenues sous l'égide des Nations Unies et des estimations qui ont été faites font monter les financements globaux requis à près de 4 500 milliards de dollars par an pour permettre aux différents acteurs, aux différents pays de pouvoir travailler à répondre positivement aux attentes dont les ODD sont porteurs d'ici à l'horizon 2030, ce qui est parfaitement mobilisable par la communauté internationale. Et pour nos pays, il s'agit seulement aussi de commencer déjà à penser aux mécanismes d'élargissement de l'espace budgétaire pour pouvoir faire évoluer un peu la part de financement intérieur dans les budgets nationaux. Et je crois que aussi c'est faisable. La marge de manœuvre en termes, par exemple, d'espace fiscal reste très importante dans des pays comme la RDC. Et les autorités sont en train de travailler d'arrache-pied justement à accroître justement cet espace fiscal qui contribuera du coup à accroître le volume du budget de la RDC. Et ce sera tout à l'honneur des objectifs de développement durable.
À part le financement, quel autre élément à inclure pour atteindre les ODD ?
Les différentes réformes structurelles, institutionnelles, qui essayent aux conditions de mise en œuvre de tels objectifs. Et je crois savoir aussi que la RDC a fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là de réformes institutionnelles et structurelles. Et je crois que si les progrès se poursuivent comme cela, je n'ai aucun doute qu'elle arrivera justement à des résultats très probants le jour du compte, c'est-à-dire à l'horizon 2030.
Enfin, quels sont les défis et les opportunités pour une mise en œuvre réussie des ODD en RDC ?
Je crois que, comme dans beaucoup de pays, ce sont les défis du cadre institutionnel de mise en œuvre des politiques. Ça peut être aussi le défi de la définition de politiques économiques et sociales qui soient pertinentes et qui soient réellement alignées sur les ODD. Les défis, c'est un peu encore la capacité du cadre statistique national à pouvoir supporter les politiques de planification et de programmation, mais aussi de suivi et d'évaluation des progrès accomplis vers l'atteinte de ces objectifs. Et je crois que ce sont des défis qui sont à portée de main de la RDC et les partenaires aidants. Avec toute la volonté politique du gouvernement, je crois qu'on pourrait être très optimiste dans cette perspective-là. Les opportunités, il y en a qui sont réelles. C'est déjà la volonté politique affichée par le gouvernement à travers ce que le Premier ministre nous a laissé entendre lors de la cérémonie de lancement du rapport OMD dont j'ai parlé tantôt. Les opportunités aussi, c'est l'engagement de la communauté internationale à accompagner la RDC dans cette voie pour l'atteinte des ODD. La deuxième grande opportunité aussi, c'est pour moi la perspective dans laquelle nous sommes actuellement, à savoir le processus d'élaboration du nouveau plan stratégique de développement économique et social de la RDC, qui, compte tenu des orientations du Premier ministre et du ministre du plan, va être aligné justement sur les ODD. Et donc, la disponibilité d'un plan national stratégique de ce genre-là est une opportunité énorme à saisir pour pouvoir réaliser des progrès extrêmement importants dans ce domaine des ODD.
Monsieur, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Et nous ouvrons cette page de nouvelles en plus bref par Kinshasa, où vient d'être créé à l'ISP Gombe un foyer de citoyenneté, une grande première dans les universités en RDC. Une initiative née à la suite d'une journée de sensibilisation sur les violences faites aux hommes et aux femmes en milieu étudiantin. Environ 1500 étudiantes et étudiants ont participé à cette journée, organisée mardi 8 décembre par les PNUD. En collaboration avec les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire et de la femme, famille et enfants, ainsi qu'avec l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et à la petite fille. Restons dans le même volet, nous nous rendons cette fois-ci à Bukavu, Sud Kivu, où une cinquantaine de filles et étudiantes ont participé à un dîner débat dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles basées sur le genre. Une activité tenue le 1er décembre dernier à l'initiative du Centre Lamé de l'archidiocèse de Bukavu et à laquelle a participé la section genre de la MONUSCO. Les débats portaient surtout sur les conséquences des grossesses et des mariages précoces. Enfin, le ACR annonce avoir enregistré la semaine qui s'achève plus de 5500 personnes récemment arrivées dans la province du Haut-Uele à la suite des affrontements au Soudan du Sud. Parmi ces personnes, la source précise que 3824 sont des réfugiés sud-soudanais et 1735 des rapatriés congolais. Toutes ces personnes trouvent refuge dans des familles d'accueil.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invitée de ce dimanche est Madame Faïda Mwangilwa Fabiola, ancienne ministre du genre, femmes et famille. Elle est aujourd'hui consultante en genre et membre du conseil consultatif à ONU Femmes. C'est en cette qualité que nous la recevons en marge des 16 jours de l'activisme en faveur de la promotion des droits de la femme et la journée internationale contre la corruption. Pour elle, faciliter l'accès des femmes aux instances de décision contribuera à combattre la corruption en RDC parce que, dit-elle, celle-ci gère mieux que les hommes. Suivez plutôt l'entretien que Faïda Mwangilwa a accordé à Honoré Missenga Kalala.
Madame Faïda Mwangilwa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, comment dirais-je, une militante des droits de la femme. On vous a connue dans ce pays, notamment comme ministre du genre, famille et enfants. Quel est votre statut actuel dans la lutte pour la promotion de la condition de la femme en RDC?
Merci beaucoup. Actuellement, je suis consultante en genre. J'ai ouvert un bureau de consultance qui offre des services pour toutes les questions concernant le genre et le développement. Et là, nous sommes à la disposition de tous ceux-là qui travaillent sur la thématique genre.
Alors, madame, selon vous, quelles sont les principales violences faites à la femme en République démocratique du Congo?
Il y a plusieurs types de violences. Si nous pouvons voir par rapport à leur ampleur, nous pouvons commencer par les violences sexuelles. Il y a plus d'une décennie que les femmes ont vécu des situations très difficiles et cela accentué par les moments des conflits armés qu'a connu la République démocratique du Congo. Mais en dehors de ces violences sexuelles, il y a les violences psychologiques et il y a les violences physiques. Que quand on parle de violence psychologique, nous voyons le propos injurieux qu'on inflige aux femmes, aux jeunes filles.
En marge de la journée internationale pour l'élimination des violences faites à la femme, le 25 novembre, 16 jours, c'est-à-dire du 25 novembre au 10 décembre, étaient consacrés partout dans le monde aux activités de promotion des droits de la femme. Nous sommes le 10 décembre aujourd'hui. Si on faisait un petit bilan, pensez-vous qu'en RDC, il y a eu suffisamment de mobilisation, suffisamment d'activités allant dans le sens de la promotion des droits de la femme?
En tout cas, il y a eu plusieurs activités. Le lancement a été fait en date du 25 novembre. Après le lancement, d'ailleurs, en République démocratique du Congo, nous avons connu un événement qui a renforcé notre plaidoyer, la visite de Madame la directrice exécutive de l'ONU Femmes et secrétaire générale adjointe. Nous avons passé 3 jours avec elle et on a organisé un plaidoyer de haut niveau qui a permis aux femmes de s'adresser au Premier ministre, M. Matata Ponyo. Donc, c'était une grande opportunité pour les femmes congolaises de présenter brièvement les violences auxquelles elles font face, notamment les violences politiques. Les femmes de la RDC sont moins représentées dans les instances décisionnelles, même pour les postes nominatifs. Nous venions de suivre les nominations des commissaires spéciaux. Sur les 22 commissaires spéciaux, il n'y avait que 2 femmes titulaires et les autres sont des adjointes. C'est comme s'il n'y avait pas de femmes qui remplissaient les critères. Elles sont nombreuses dans le cas de la majorité présidentielle aujourd'hui. Nous en avons profité pour parler aussi des guerres à répétition que connaissent certaines zones de la République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où nous vivons des massacres de femmes et enfants par les groupes armés étrangers comme nationaux. Donc, tant qu'il y aura instabilité en RDC, il sera difficile d'éradiquer les violences sexuelles et autres formes de violences dont sont victimes les femmes.
pas suffisamment de femmes dans les instances décisionnelles, vous l'avez dit, mais vous êtes une ancienne ministre vous-même, je l'ai dit. Le code de la famille est en train de subir quelques modifications au niveau du Parlement. Quelles devraient être les grandes réformes à apporter à ce code dans le sens de la promotion des droits de la femme en RDC, selon vous?
Oui, dans le sens de la promotion de femmes à RDC, nous allons voir d'abord l'institution du choix du liquidataire de la succession parmi les héritiers. Ça, c'est une question qui préoccupe les femmes et les enfants en République démocratique du Congo avec l'instauration d'un liquidataire de la succession et non pas parler des membres de famille parce qu'il y avait des membres de famille qui prenaient tous les biens de veufs ou de veuves et orphelins. Il faut vraiment voir comment le conseil de famille doit être désormais un conseil consultatif qui ne doit pas venir imposer des idées au couple jusqu'à être à la base de la dislocation des familles. Ça, vraiment, c'est un problème auquel il faut absolument travailler. Nous avons la consécration du principe de respect mutuel des époux. Les époux se doivent respect. Le mariage, c'est un consentement mutuel. Effectivement, le mari reste le chef de la famille et ça, c'est tout à fait normal dans nos sociétés traditionnelles. Nous allons voir aussi la suppression de l'autorité maritale au profit de la concertation des conjoints parce que l'autorisation maritale, quant à ce qui concerne l'accès des femmes au travail ou aux ressources, moi je crois que ça c'est une question aussi primordiale parce que la femme peut avoir l'emploi avant le mariage ou après le mariage. Donc tout dépend de la manière dont les deux personnes se gèrent au niveau de leur famille. Le souci du législateur, même dans la révision du code de la famille, est de consolider la famille, de protéger les composantes de la famille. Et là, je parle du père, de la mère et des enfants. Il y a aussi la dot dans le code de la famille qui est en révision aujourd'hui au Parlement. La dot devrait être fixée depuis 1987 par le chef de l'État par un décret. Mais depuis lors, il n'y a pas eu de décret. Mais on introduit des nouvelles dispositions pour responsabiliser les gouverneurs de manière à ce que cela soit fait selon le contexte de chaque province. Je crois que la dot doit être considérée comme un symbole et non pas profiter du mariage de sa fille pour donner des prix exorbitants comme demander de groupes électrogènes, de véhicules, non.
Donc vous pensez que le décret qu'on attend doit notamment limiter le montant de la dot?
Non, ça ne sera plus le décret présidentiel comme il était dit dans le code en vigueur, mais plutôt ça sera un arrêté du gouverneur qui va fixer cela par rapport au contexte de chaque province et ça sera symbolique. À chaque fois qu'on vient demander la main d'une de mes filles ou de mes nièces, de mes cousines, je me réfère à notre coutume, la coutume lega. Nulle part tu trouveras les espèces, mais plutôt de biens.
Mais des vaches, plusieurs vaches.
Ce sera des vaches chez nous, chez les lega. Ce sont des chèvres qu'on demande, mais tu peux amener ce que tu as. On ne dit pas, tu dois absolument amener les 12 ou 14 chèvres, mais tu amènes selon tes possibilités parce qu'on considère que la dot ne peut pas se terminer en une journée. C'est un symbole.
Madame, pour permettre aux femmes et aux filles de rattraper le retard dans l'accomplissement de quelques-uns de leurs droits fondamentaux, certains États ou certaines sociétés appliquent la politique de la discrimination positive. Dans quel domaine souhaiteriez-vous que le gouvernement congolais, par exemple, applique une telle politique en faveur de la femme ou de la fille congolaise?
Il y a déjà une politique qui s'applique dans le domaine éducatif. Il y avait un programme appuyé par l'UNICEF en partenariat avec le gouvernement congolais. Donc, toutes les filles à l'école a permis pour la première fois en République démocratique du Congo en 2007 d'avoir des statistiques en fin d'études primaires plus élevées des filles que de garçons. Donc je crois que ça ce sont des mesures spécifiques pour essayer de corriger les inégalités observées en matière de droits des femmes, notamment le droit à l'éducation. Je pense qu'il faut continuer à travailler sur cela parce que jusqu'aujourd'hui dans certains villages les filles ne sont pas favorisées. On donne beaucoup plus de privilèges à la scolarisation des garçons, estima que la fille va se marier. Non, nous disons non. Il faut donner les mêmes chances aux enfants, garçons et filles. Je vais aussi entrer dans les domaines sanitaires. Dans certains pays, par exemple, la maternité, l'accouchement est gratuit. Je crois que l'accouchement doit demeurer gratuit en République démocratique du Congo parce que les gens vivent une situation très dégradante. Or, on doit absolument continuer à faire des enfants, bien qu'on parle de la planification familiale, j'appuie cela. Mais cela ne peut pas limiter les femmes à avoir des enfants.
enfants selon leurs possibilités. Je vais terminer avec le secteur politique, surtout dans les postes nominatifs. Hier, on a parlé de la lutte contre la corruption. Et je crois que les femmes à RDC sont les meilleures gestionnaires. J'étais un regard au niveau des entreprises dirigées par les femmes dans notre pays. En tout cas, je crois qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, ces femmes-là. Et je crois qu'il faut continuer à soutenir l'accès des femmes aux instances décisionnelles dans la lutte contre la corruption, bien qu'elles évoluent pour la plupart dans le secteur économique et informel, mais il faut absolument les tenter, jauger leur capacité de gestion des instances politiques et tout. Je crois que ça peut nous aider à mieux gérer nos circonscriptions. Moi, je vois par exemple les communes. Pourquoi on doit continuer à ne pas opérer la discrimination positive dans la gestion des communes avec tout ce que nous vivons comme immondices? Moi, je crois qu'il faut identifier des femmes capables de redresser la situation des gestions des villes, des communes, pour que nous vivions un environnement beaucoup meilleur que de vivre des catastrophes, surtout avec le changement climatique où nous devons faire face à beaucoup de problèmes.
Madame Faïda Mandila, merci.
Merci beaucoup.
Première tournée de Mamane Sidikou dans l'est du pays. À Goma, deuxième étape de cette tournée, le représentant spécial en RDC a plaidé pour la généralisation des opérations conjointes FARDC-MONUSCO. Un plaidoyer fait à la suite des massacres d'Eringeti et lors de l'inauguration du premier centre de presse du pays financé par la MONUSCO. C'était lundi 7 décembre 2015. Les propos de Mamane Sidikou au micro de Bernardin Nyangui.
Ce qui importe de faire à partir de maintenant, c'est que la RDC et la MONUSCO, en particulier la FARDC, se remettent au travail ensemble. Je crois que c'est notre devoir commun de rassurer davantage les populations. En fait, je suis allé jusqu'à Eringeti. J'ai vu l'hôpital qui a été attaqué par les terroristes de l'ADF. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai vécu personnellement parce qu'ils ont tué des gens sur les lits d'hôpitaux, ils ont tué des enfants de 2 ans, ils ont tué une infirmière à bout portant, ils ont brûlé, saccagé, ils ont apporté des médicaments. Je crois qu'il y va de notre crédibilité, gouvernement et MONUSCO, de reprendre les choses en main dans cette zone. Mais la parole doit toujours et avant tout être donnée aux Congolais parce qu'il y va de leur souveraineté. Et nous devons respecter cela. Toutes les opérations sont d'abord les opérations de l'armée congolaise avec laquelle nous travaillons. Nous aurons tout notre soutien quand ils le demanderont. Et nous espérons réellement que nous allons nous remettre tout de suite au travail. Parce qu'il s'agit des populations congolaises dans des zones assez difficiles et il n'est pas bon qu'elles se sentent abandonnées.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Cosmas Mingazi, journaliste scientifique du journal L'Emergence. Ma question s'adresse à Geneviève du PNUD. Les gros de vos informations, ce sont des comptes rendus des ateliers. Ma question est de savoir, est-ce que vous pensez que ces comptes rendus, c'est ça vraiment les besoins des populations congolaises?
Et cette question a été posée à partir de Goma au cours de la conférence de presse de mercredi 9 décembre. Suivez maintenant ce qu'a été la réponse de Geneviève Delanoy du PNUD.
C'est une bonne question. Pour aller rapidement, le PNUD, les agences de développement et les agences humanitaires ont deux approches. Une approche qui vise à travailler sur le terrain avec les bénéficiaires et les communautés et à mettre en œuvre des projets concrets pour améliorer leurs conditions de vie au jour le jour. Ou pour venir en aide en urgence aux populations en détresse, réfugiées, déplacées, etc. Ça, c'est une action. L'autre action est plus institutionnelle. C'est-à-dire qu'il est fondamental, dans un pays comme la RDC, qui a connu des périodes très mouvementées, de reconstruire le dialogue. C'est fondamental parce que les gens doivent se parler, doivent apprendre à échanger des bonnes pratiques, à partager les expériences et à élaborer ensemble des stratégies, des plans, etc. Donc il y a deux axes. Et ça peut sembler, un peu entre guillemets inutile en se disant « mon Dieu, encore un atelier ». Mais ce qui est fondamental, c'est d'apprendre à construire ensemble une stratégie, une planification pour ensuite les mettre en œuvre sur le terrain et venir en aide concrètement avec des résultats durables avec les populations.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Je suis Jean Kassami Baralibiru. Je casse pour les collègues de la rédaction ici à Bukavu. Je suis marié et père de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Mon cursus est scolaire et académique. J'ai fait les humanités pédagogiques où je suis sorti diplômé d'État en 1986. Après, j'ai obtenu mon diplôme de graduat en arts et métiers de l'audiovisuel à l'Institut supérieur de l'audiovisuel ISA Bukavu en 1993. Mon parcours professionnel se présente comme suit. Dans l'agence actuelle, c'est-à-dire à la radio Okapi, j'ai été engagé en 2003 en qualité de journaliste et présentateur des journaux, des émissions spécialisées et des magazines. Je suis aussi reporter. Quand j'arrive au bureau, je participe chaque matin à la conférence de rédaction autour d'une table avec mes collègues journalistes de la rédaction de Bukavu. Après la répartition des tâches, j'effectue une descente sur le terrain pour les reportages. Au retour, souvent la mi-journée, je me confie à la mise en page avant la mise en onde à partir de 17h, heure de Bukavu pour le décrochage local. Avant mon arrivée à la radio Okapi, j'ai travaillé dans l'enseignement primaire et supérieur. J'ai été journaliste dans plusieurs chaînes de radio-télévision, la RTNC, à Ouvira, j'ai été rédacteur en chef, Radio Maria, Centre Locolé en qualité de pigiste. Je dois aussi ajouter que j'ai travaillé dans une radio concurrente à la RTNC à l'époque de la guerre de l'AFTL et du RCD. Quand je suis libre, surtout les week-ends, je consacre mon temps aux activités de l'église. Je profite aussi de certains moments pour visiter mes amis et frères avec lesquels nous sommes restés longtemps séparés à cause des activités professionnelles qui me renvoient souvent à l'intérieur de la province. Je préfère manger du foufou à la viande de chèvre grillée. Quand je suis libre, j'aime écouter la musique religieuse. J'aime aussi aller au théâtre, mais malheureusement, cette activité de loisir n'est plus fréquemment organisée ici à Bukavu. Mes perspectives d'avenir, avoir des moyens financiers qui me permettent de contribuer à la relance des activités de développement dans mon groupement d'origine de Ndouba, dans le territoire de Walou.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un rendez-vous important noté dans vos agendas du 14 au 15 décembre 2015, tenu à Kinshasa d'un atelier sur l'incidence de l'opérationnalisation du protocole de la CIRGL sur la protection des droits de propriété des personnes de retour, l'élaboration de la politique et la révision foncière en RDC. Un atelier dans lequel sont impliqués ONU Habitat, l'UACR et d'autres agences zonusiennes. Et puis, n'oubliez pas, le 18 décembre, Journée internationale des migrants. Et le 20 décembre, Journée international de la solidarité humaine. C'est la fin du magazine des Nations Unies. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le dimanche prochain à la même heure sur la même fréquence. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. À la coordination et au reportage, Honoré Misengakalala, Martin Sebujango était à la supervision, à la mise en onde, Dieudonné Nyangasa et Tina Salam à la présentation. Vous voulez réécouter ce magazine, vous savez quoi faire. Vous tapez www.radiocapi.net. À bientôt. Bon dimanche. Ciao, ciao.